VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. À Cuba, des centaines de milliers de Cubains ont afflué ce lundi sur la place de la Révolution à La Havane pour rendre un dernier hommage à Fidel Castro qui vient de mourir à 90 ans. Le point avec Nani Talani.
Cette cérémonie est le premier temps fort d'une semaine d'hommage au leader Massimo. Le choix de la place de la Révolution est très symbolique. L'endroit a été le théâtre de nombreux discours fleuves de Fidel Castro contre l'ennemi impérialiste américain. Après deux jours sous le choc, les Cubains donnent libre cours à leurs émotions. Les cérémonies ont débuté par une salve de 21 coups de canon tirés depuis le fort qui surplombe la baie de La Havane. Des centaines de milliers de personnes, voire des millions, tous les âges confondus, se sont pressés sur la vaste esplanade dominée par une photo géante du disparu. Les funérailles auront lieu dimanche après une procession à travers le pays. Les cendres de Fidel Castro seront transférées à Santiago dans l'Est, berceau de la Révolution. Donald Trump, président élu des États-Unis, a menacé de mettre fin au dégel avec Cuba si La Havane ne donne pas plus de garanties en matière de droits de l'homme ou d'ouverture économique.
Ici aux États-Unis, la mort de Fidel Castro a donné lieu à des manifestations de joie, notamment à Miami, en Floride. Les anticastristes lui reprochent d'avoir été un dictateur impitoyable à l'égard des opposants. Pour un coup de projecteur sur les relations entre Fidel Castro et l'Afrique, écoutons le professeur Jean-Emmanuel Pondy, ancien directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun.
C'était des rapports, je dirais, de principe et surtout idéologiques. Fidel Castro soutenait toutes les oppositions par rapport aux pays capitalistes, aux pays qu'il considérait comme bourgeois. Et par conséquent, il n'était pas l'ami de ce camp-là. Mais il a quand même investi beaucoup, et surtout en 1974, au moment où le Mozambique et l'Angola accèdent à l'indépendance, il envoie quand même 30 000 troupes dans un pays et 30 000 dans l'autre, ce qui fait quand même 60 000 troupes au cœur de l'Afrique, ce qui a failli embraser le continent. Au cas où les troupes sud-africaines venaient dans ce périmètre, on aurait eu certainement le début d'une troisième guerre mondiale à base idéologique. Heureusement, ça ne s'est pas dénoué de cette manière, mais la fermeté et l'engagement militaire et également idéologique de Fidel Castro pour les pays dont je viens de parler était sans faille. Mais on oublie aussi que, d'autre part, il a soutenu mordicus la lutte anti-apartheid. Et la preuve de cela, c'est qu'à sa sortie de prison, Nelson Rolihlahla Mandela a tenu à lui rendre hommage, tout comme il a tenu à rendre hommage à Muammar al-Kadhafi, en disant que dans les heures les plus noires, les plus sombres, les plus difficiles, ce sont ces deux-là qui ont toujours été à leur côté. Ça peut ne pas plaire à l'Occident, mais ce sont des faits historiques qu'ils ont démontrés et qui sont retraçables.
Jean-Emmanuel Pondy, ancien directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Politique en RDC, le parti d'opposition UDPS va brandir le carton rouge au président Joseph Kabila le 19 décembre prochain afin de lui signifier la fin de son mandat et exiger son départ de la tête du pays. Jean-Marc Kaboun, secrétaire général du parti des siennes Tshisekedi, l'a rappelé ce lundi à Kinshasa. M. Kaboun a une nouvelle fois rejeté l'accord politique qui a sanctionné le dialogue le 18 octobre dernier, traité de non-événement la nomination de Sami Badibanga comme Premier ministre et souligner que seule une rencontre entre le président Kabila et Etienne Tshisekedi et leurs alliés respectifs pour une gestion consensuelle de la transition permettra de décrisper la tension politique. On écoute Jean-Marc Kaboun.
Les insuffisances et les dangers que contient l'accord du 18 octobre pour notre jeune démocratie, nous ne suivrons pas les vents en guerre qui pullulent dans la majorité élargie, rampant au pied de M. Kabila et faisant des courbettes pour obtenir des postes et des avantages personnels. C'est un dialogue inclusif, mettant face à face Kabila et ses alliés du camp Tshatshi d'une part, Tshisekedi et le rassemblement avec leurs alliés d'autre part, permettra de trouver une solution consensuelle pour la gestion de la période de transition jusqu'aux élections. Sami Badibanga était parmi la trentaine des élus UDPS qui avait choisi d'ignorer les mots d'ordre du président pour aller donner des béquilles politiques à Kabila et ainsi crédibiliser la fraude électorale depuis 2012. Sami Badibanga et ses collègues se sont auto-exclus du pacte. Nous ne sommes pas concernés par cette nomination qui, dans tous les cas, arrive à échéance le 19 décembre prochain, dans quelques jours.
Jean-Marc Kaboun, secrétaire général du parti UDPS, d'Étienne Tshisekedi. Ouganda, le bilan des combats de ce week-end dans l'ouest du pays entre les forces de police et des miliciens alliés à un monarque local atteint maintenant 62 morts. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un porte-parole des forces de sécurité. Un bilan initial de 55 tués avait été communiqué dimanche. Timothée Donangmaï.
Un porte-parole de la police ougandaise a fait état de 14 policiers et 41 militants tués lorsque la police a pris d'assaut le palais du roi Charles Wesley Mumbere dans la ville de Kasese. La garde du souverain a opposé une farouche résistance, entraînant des combats dans plusieurs quartiers de la ville. Elle ferait partie d'une milice liée à un mouvement prônant la création d'une république de Yira sur la zone frontalière entre l'ouest de l'Ouganda et une partie du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Le président ougandais Yoweri Museveni avait appelé le roi Mumbere pour lui ordonner de démanteler sa garde, mais ce dernier a refusé, entraînant l'intervention des policiers, a indiqué le porte-parole de la police. Selon la même source, le souverain qui a été arrêté sera inculpé d'incitation à la violence et emmené à Kampala pour s'expliquer sur son rôle dans les violences de dimanche.
Le djihadiste d'origine algérienne Mokhtar Belmokhtar, allié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, a été visé récemment par une frappe aérienne française en Libye et probablement mort. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui un responsable américain, confirmant des informations parues dans le Wall Street Journal. Mokhtar Belmokhtar, chef du groupe Al-Mourabitoun, qui a mené de nombreuses attaques sanglantes dans la région du Sahel, a déjà été donné pour mort à plusieurs reprises, notamment en juin 2015 lors d'une frappe américaine en Libye. Au Mali, l'ex-putschiste Amadou Aya Sanogo et ses co-accusés seront à la barre après-demain mercredi 30 novembre à Sikasso dans le cadre du procès relatif à l'affaire des 21 bérets Rouge disparu. Ce procès suscite beaucoup d'intérêt car il est le premier jugement d'un groupe de putschistes dans le pays. Amadou Aya Sanogo et les autres prévenus sont accusés d'enlèvement, assassinat et complicité concernant ces 21 militaires dont les restes ont été découverts dans un charnier dans la banlieue de Bamako, la capitale. En Côte d'Ivoire, reprise aujourd'hui à Abidjan du procès pour crime contre l'humanité de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo avec la présence de ses avocats, mais en l'absence de Mme Gbagbo, qui refuse de comparaître pour exiger la déposition en tant que témoin de plusieurs personnalités ivoiriennes, dont l'actuel président de l'Assemblée nationale et ancien chef de la rébellion Guillaume Soro. La cour d'assises d'Abidjan, qui juge l'ex-première dame, va établir demain mardi un calendrier de passage des personnalités ivoiriennes. Pomme de discorde entre l'accusation et la défense depuis plusieurs semaines. Politique aux États-Unis maintenant, transition de l'administration Obama au futur gouvernement du président élu Donald Trump. Le prochain chef de l'exécutif américain a dénoncé hier soir ce qu'il a appelé une grave fraude électorale à la présidentielle du 8 novembre. Donald Trump affirme, sans en apporter la preuve, que des millions de gens avaient voté illégalement au scrutin qu'il a remporté face à la démocrate Hillary Clinton. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Dans un contexte de transition du pouvoir à la Maison-Blanche, une polémique a enflé tout au long du week-end. Une ancienne candidate indépendante à la présidentielle, l'écologiste Jill Stein, a décidé de réclamer des recomptages de voix dans les États du Wisconsin, de Pennsylvanie et du Michigan. Ces trois États clés sont tombés dans l'escarcelle de Donald Trump et le camp Clinton a annoncé samedi qu'il participerait au nouveau décompte dans le Wisconsin, ce qui a fait sortir de ses gonds le bouillonnant milliardaire. En plus d'une victoire écrasante au sein du collège électoral, j'ai gagné le vote populaire si vous déduisez les millions de gens qui ont voté illégalement, a accusé dans un tweet rageur le 45e président des États-Unis qui remplacera le 20 janvier le sortant Barack Obama à la Maison-Blanche. Ni lui ni ses conseillers n'ont apporté la moindre preuve de ces allégations et les observateurs électoraux le 8 novembre n'ont jamais fait état de fraude. Rappelons que le républicain a largement gagné la présidentielle américaine en empochant au scrutin universel indirect 290 grands électeurs contre 232 à sa rivale démocrate. En revanche, en termes de suffrage populaire, Hillary Clinton a recueilli 2,2 millions de voix de plus que Donald Trump.
Et pour terminer, le Zimbabwe a lancé aujourd'hui sa nouvelle monnaie pour tenter de pallier au manque criant de liquidité qui asphyxie son économie. Le billet d'obligation est indexé sur le dollar américain. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.